L'enfant en grelot de Jacques-Rémy Girard, 1998. Tout d'abord, quelques mots sur le réalisateur du film, Jacques-Rémy Girard. Il est né en 1952 et il a été tour à tour instituteur, maître auxiliaire au collège, puis professeur à l'École des Beaux-Arts de Grenoble. En parallèle, avec la Fédération des œuvres laïques, il réalise des petits films d'animation dans le cadre scolaire ou hors temps scolaire. Et cette pratique devient une véritable passion pour lui. En 1984, il fonde avec des copains le studio Folimage, près de Valence, dans la région Rhône-Alpes. La même année, l'école Émile Cole est créée à Lyon. Jacques-Rémy Girard y enseignera dans la section cinéma d'animation pendant 4 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la transmission, sous toutes ses formes, l'intéresse. De nombreux anciens élèves de l'école Émile Cole le rejoindront à Folimage et deviendront des piliers du studio d'animation. Donc depuis 1988 et la naissance de son premier enfant, Jacques-Rémy Girard se consacre essentiellement à la réalisation de films ou de séries pour le jeune public. L'enfant au grelot est dédié à son plus jeune garçon qui se nomme Charlie. Initialement, le film était un 28 minutes conçu pour la télévision. Et en 1998, il reçoit 8 prix internationaux, dont le Grand Prix spécial TV à Annecy et le Cartoon d'Or du meilleur dessin animé européen. Le studio décide ensuite de le sortir donc sur grand écran avec 3 autres courts-métrages réalisés eux aussi au studio Folimage. Écoutons maintenant Jacques-Rémy Girard parler de l'origine du projet. Quand j'écrivais L'enfant au grelot avec Benoît Chieux et Damien Louche-Pélissier, et plus tard quand je l'ai réalisé, mes 4 enfants étaient encore jeunes. Le dernier, Charlie, marchait à peine. Je me disais, qu'est-ce que j'aurais envie de leur montrer dont je serais le plus fière? C'est une idée toute bête, mais elle m'a beaucoup aidée pour trouver les émotions justes. Mon souci de proposer un film de qualité rejoignait celui d'offrir la même chose à mes propres enfants. Impossible de tricher. Alors Jacques-Rémy Girard avait donc envie de faire un film sur un père et son fils. Idée a priori assez banale. Mais pour mieux parler de cette relation, il se dit qu'il serait intéressant dans un premier temps de les séparer. Chacun vivrait de son côté. Il souffrirait bien sûr de cette situation, mais lorsqu'ils se retrouveraient enfin, ce serait le bonheur le plus total. Une excellente idée pour maintenir l'attention des spectateurs. En effet, avec ses 2 co-scénaristes, Jacques-Rémy Girard a construit, à partir de cette base, un scénario très rythmé qui nous tient en haleine donc pendant les 28 minutes. Son film s'ouvre sur une chute. Un panier d'osier contenant un bébé tombe du ciel. Celui-ci ne reste pas longtemps seul. C'est tout d'abord un écureuil qui s'intéresse à lui et se met à le bercer. Ensuite arrive un facteur à cheval. On comprend rapidement qu'entre le bébé et le facteur, surnommé Grand Jacques, il y a quelque chose qui se passe. Et si le bercement de l'écureuil n'avait pas calmé le bébé, le bruit du grelot agité par Grand Jacques l'apaise aussitôt. Il sourit dans les bras de ce grand escogriffe qui lui donne le prénom de son père, Charlie. Un fondu au noir nous propulse quelques années plus tard. Cette ellipse temporelle accélère le récit. Charlie a grandi, il n'est plus un bébé, il sait lire et écrire maintenant. Il est entouré de beaucoup d'affection, celle de Mamie Rose, celle de ses 6 copains qui vivent avec lui, et bien sûr celle de Grand Jacques, le facteur qu'il voit tous les jours lors de sa tournée matinale. Malgré cela, lorsqu'il se retrouve seul dans la nuit avec son grelot, il lui confie son inquiétude et lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on me trouve dans la forêt ? Il n'y a que toi qui sais. » Comme nous tous, Charlie a besoin de connaître ses origines, de savoir d'où il vient, de comprendre les liens qui l'unissent à ceux qui l'ont précédé. Et malgré l'amour de ses proches, le secret donc de ses origines l'oppresse. La mise en scène du cauchemar de Charlie nous fait partager cette angoisse. Le grelot est le seul lien tangible avec ce passé qui lui est inaccessible. Alors maintenant, nous allons aussi partager donc la quête du petit garçon. Pour beaucoup d'entre nous, il est devenu un ami de fiction et nous cherchons avec lui une réponse à sa question. Alors contrairement à Charlie qui ne peut pas accompagner le facteur chez le Père Noël, nous, les spectateurs, nous allons pouvoir le suivre et découvrir donc dans le Père Noël un homme désespéré, déprimé, bien loin de l'image débonnaire traditionnellement associée donc au Père Noël. Et si nous prêtons attention à son costume, nous pourrons aussi remarquer qu'il lui manque un grelot. Des indices plus ou moins perceptibles nous sont donnés. La quête de Charlie prend alors la forme d'une enquête pour nous, les spectateurs. Nous avons un temps d'avance sur lui. Nous sommes notamment témoins du malheur et de la culpabilité qui angoisse le Père Noël. Il se demande comment il peut continuer à être le Père Noël après avoir fait ce qu'il a fait. Mais qu'a-t-il donc fait? Il nous faudra attendre un peu avant d'avoir la réponse. Le Père Noël s'endort et son rêve permet un retour en arrière qui nous dévoile ce qui s'est passé cette fameuse nuit. On découvre aussi par là même que Charlie est son fils. Alors, nous n'avons maintenant qu'une seule envie, qu'ils puissent être à nouveau réunis. Un montage alterné se met alors en place, alimentant le suspense. Ce n'est pas dans la maison au fond de la forêt que la rencontre tant attendue aura lieu. Une épreuve les attend avant la fin joyeuse. L'histoire imaginée par Jacques-Rémy Girard et ses co-scénaristes est une histoire intemporelle. Le personnage donc du Père Noël n'est plus un personnage éthéré. Il est un père de famille qui affronte une terrible épreuve, la perte d'un enfant. La force de Jacques-Rémy Girard et de son équipe donc de Folimage est d'avoir transformé cette histoire sombre en une illustration lumineuse du concept de résilience. Le petit héros, Charlie, se construit grâce donc à la présence de Grand Jacques et de Mamie Rose et de ses copains, mais aussi donc grâce au soutien d'une bonne étoile et d'un grelot magique, sans oublier la compagnie donc d'un petit écureuil. Amis réels ou amis imaginaires, tous ont contribué à atténuer donc le terrible manque qui a marqué la petite enfance de Charlie. Alors, si l'écriture est pour Jacques-Rémy Girard l'étape fondamentale, il n'en reste pas moins tout un travail à faire pour que les mots du scénario s'incarnent dans une suite d'images et de sons. Jacques-Rémy Girard attache une grande importance aux voix dans ses films. Elles sont enregistrées en premier. Il dirige les sessions d'enregistrement avec chaque comédien en leur donnant la réplique. Pour lui, les voix enregistrées, et là je le cite, ne sont pas des voix de post-production, ce sont des voix de création, sur lesquelles toute la chaîne de fabrication du film va ensuite s'appuyer. Alors, la musique est de Serge Besset, compositeur présent donc au studio Folimage depuis l'origine. Jacques-Rémy Girard et lui ont fait tous leurs films ensemble. Il se met au travail dès le début de l'écriture du scénario. Il lit les différentes versions. Il s'imprègne de l'histoire et il commence donc à composer des thèmes, à chercher des variations avec divers instruments. La musique et l'image évoluent en parallèle et se nourrissent l'une de l'autre. La musique est un vecteur d'émotions essentielles et ils aiment tous les deux les grands orchestres. Pour l'Enfant Grelot, ils ont collaboré avec l'Orchestre Lyrique d'Avignon-Provence, composé donc de 45 musiciens. Le graphisme original est l'œuvre donc de Benoît Chieux et de Damien Louche-Pélissier, tous deux juste diplômés de l'école Émile Cole au moment de la création du film. Ils se sont partagés donc la direction artistique. 250 décors colorés ont été créés, forêt de sapins, village aux maisons de guingois, cieux étoilés. Ils ont aussi créé ensemble la physionomie atypique donc des personnages. Tous, à l'exception de la fée Alma, sont dotés d'un nez généreux surmonté par de petits yeux. Ils portent aussi une veste qui ressemble beaucoup à celle d'un monsieur loyal, une jolie allusion à la fascination que Jacques-Rémy Girard a pour le cirque. Alors, les références à Jacques Tati sont importantes dans le film. Elles sont liées à l'histoire familiale du réalisateur. La mère de Jacques-Rémy Girard a été élevée en partie aux côtés donc de Pierre Etex, qui leur a fait découvrir donc plus tard les films de Jacques Tati. Jacques-Rémy Girard confie que s'il fait ce métier, c'est aussi à cause de ces deux très grands artistes. Charlie partage la passion de l'astronomie avec le héros du premier long métrage de Pierre Etex, Le Soupirant. Et bien sûr, Grand Jacques ressemble comme deux gouttes d'eau à François, le facteur de jour de fête. Il serait intéressant de montrer un extrait donc de ce long métrage à vos élèves. La tournée burlesque de François, après qu'il ait vu au cinéma un documentaire sur la poste américaine, est riche de liens avec la distribution du courrier effectué par Grand Jacques et Charlie. Un autre grand artiste est aussi présent donc dans le film, le peintre néerlandais Vincent van Gogh, qui prête sa chambre arlésienne à Grand Jacques. Il peut être intéressant, là encore, de montrer aux enfants une reproduction du tableau créé en 1888 et de jouer au jeu des comparaisons. On peut aussi leur montrer les différentes nuits étoilées du peintre, sa quête de la lumière du midi et sa fascination pour les splendides paysages du sud ne pouvaient laisser indifférent donc Jacques-Rémy Girard. Donc si ce film, on l'a dit, est intemporel, il est ancré dans un espace donc dans lequel les facteurs ont un accent chantant. On peut dire que 25 ans après sa conception, l'enfant grelot n'a pas vieilli. Le programme Amis pour la vie permet à de nouvelles générations d'enfants de le découvrir, accompagné de deux courts-métrages que nous allons maintenant vous présenter.